France Inter.
La comédienne, auteure et metteuse en scène iranienne Mina Kavani est née à Téhéran dans une famille humaniste et lettrée et a grandi dans un environnement tourné vers les arts. Son oncle, le metteur en scène Ali Rafi, l'a fait rêver de théâtre et c'est vers les grands auteurs, le jeu et l'écriture qu'elle se tourne naturellement. Elle fait le conservatoire à Paris et joue dans un film de Sepideh Farsi, un choix dont elle sait qu'il la condamnera à l'exil. Elle sera ensuite dirigée par des metteurs en scène comme Ben Affleck dans Argo ou Jafar Panahi dans le film Aucun ours. Elle était l'année dernière dans la série Escort Boys sur Prime Video, son premier rôle non lié à l'Iran. Au théâtre, elle a écrit et joué un seul en scène intitulé I'm Deranged, dans lequel elle raconte son histoire et ce qui habite sa vie intérieure, qu'on peut maintenant trouver en version papier aux éditions du Faubourg. Elle vient d'adapter pour la scène Ma maison est noire, montage de différents textes de la poétesse iranienne Forrukh Farrokhzad, qu'elle interprète en ce moment au Bouffe du Nord. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Mina Kavani.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, l'applaudissement de public.
Parce que vous avez commencé votre pièce au Bouffe du Nord.
Absolument.
Et ça s'est bien passé?
Je pense que ça s'est plutôt très bien passé, oui. Ouais.
Est-ce que c'est aussi intense pour vous et difficile de jouer cette pièce que I'm Deranged, qui était vraiment votre histoire, vos mots, puisque dans cette pièce dont on va parler en détail dans quelques instants, ce sont des textes d'une autre poétesse, mais ils entrent en résonance avec votre histoire?
Oui, c'est, je pense que les deux, de toute façon, c'est, ça demande une intensité énorme. Et le problème, ou peut-être l'avantage, je sais pas, avec ces deux spectacles, ou disons avec cette manière-là que j'aimerais bien faire du théâtre, c'est que j'arrive pas à aller à 20 degrés. Il faut que j'y aille à 100%. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça me vide, en fait. Mais du coup, c'est ça qui intéresse les spectateurs, mais c'est ça qui m'épuise aussi de l'autre côté. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Les deux sont un peu, c'est une suite.
En ce moment, l'Iran est très secoué. Quelles nouvelles avez-vous d'Iran?
En ce moment, les Iraniens, ils sont dans une période deuil absolu. Tous les Iraniens, où qu'ils soient, ils vivent vraiment une période très, très noire. Et là, je vois sur les, hélas, mon seul contact avec eux, ça passe par les réseaux sociaux et Internet. Mais je vois que tous mes amis, tous les gens que je connaisse, ils n'arrêtent pas à poster des choses horrible qui se passe là-bas. Et ils n'arrêtent pas à poster jour et nuit, quoi que ce soit leur métier, pour que le monde entier soit au courant de ça. Et pour que le monde n'arrête pas à parler de ça. Donc, pour moi, c'est un peu compliqué en ce moment parce que j'ai mon spectacle et évidemment, je vis les actualités de mon spectacle. Mais parallèlement de tout ça, je vis tout ça aussi. Mais du coup, j'essaie de jongler. Ouais.
20e heure, Eva Bester sur France Inter.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell?
Mina Kavani, vous connaissez la chanson par cœur, c'est Wish You Were Here de Pink Floyd. Et c'est ce qu'on écoutait à Téhéran, dans votre maison.
Là, vous m'avez ramené à Téhéran, là.
Ben oui.
Vous m'avez ramené, je suis allée à Téhéran, là.
C'est vrai?
Ouais.
Quels sont vos souvenirs, petites?
C'est mes amis, quand on se rassemblait, quand beaucoup de camping en Iran, d'aller à la montagne, dans les endroits fous de beauté, les amis qui buvaient, qui fumaient, Moi qui buvais pas et qui fumais pas, mais qui les regardais, j'étais déjà high et ivre avec eux.
Et vous parlez des fêtes, des fêtes incroyables dans le Téhéran souterrain que personne ne pourra jamais connaître.
Absolument.
Des fêtes très risquées.
Absolument. Et ça, c'est, vous savez, c'est un peu comme un combat pour moi depuis que je suis venue en France de parler de tout ça parce que j'ai tellement envie que les Français, les Occidentaux, ils arrêtent d'avoir leur point de vue cliché sur l'Iran. Mais même jusqu'aujourd'hui, c'est très étrange, comme si ils ont envie de nous mettre tout le temps dans quelque chose de tout le temps orientalisme, dans quelque chose de un cliché de. Là, j'ai envie de le dire, mais je le dis. Mais parce que, par exemple, j'ai vu l'un des critiques qui disait que le décor était occidental, était trop occidental. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire le décor occidental? Vous voulez un tapis? Vous voulez des parfums de rose? Vous voulez mille et une nuits? Qu'est-ce que vous attendez des Iraniens? Qu'est-ce que vous attendez des Orientaux? Vous nous prenez pour qui, en fait? Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir, Eva, à quel point ça me donne de la colère. C'est pas le fait que un œuvre d'art, ça peut être aimé ou ne pas aimé, ou ça, c'est ça a toujours existé, ça. Mais qu'est-ce que c'est occidental? Qu'est-ce que c'est oriental? Si aujourd'hui, on vient à Téhéran, on se sent à Brooklyn, on se sent à Londres, on se sent à Paris. Et pourquoi prendre la jeunesse iranienne comme des gens de tiers-monde? Pourquoi ne pas croire à leur intelligence, à leur modernité, à leur... j'ai envie de dire leur extrême modernité. Et pourquoi attendre toujours de l'Iran cet orientalisme cliché que je trouve tellement daté et tellement...
Pardon, ça me... Réducteur, mais non, mais vous avez...
Ça me met hors de moi parce que on a beau, nous, les Iraniens, à dire ça, on a beau à parler de ça, on a beau à montrer, on a beau à avoir des gens qui sont en train de mourir dans les rues pour dire que il n'y a pas de différence entre moi et une jeune femme à Paris. Et encore, en Occident, ce qu'ils attendent de nous, c'est des parfums de rose et c'est mille et une nuits.
Mais je pense que ça va changer.
J'espère bien.
Qui est-ce?
Mirza, le plus parisien des princes persans.
Persans? My God! Et pourquoi elle a un nom de chien?
Mirza n'est pas son nom, c'est son titre. On l'appelle comme ça, c'est plus gentil.
Elle a une jeune fille?
Amina, c'est sa nièce. Elle a 15 ans et elle est déjà veuve.
Prince, je suis très heureux de vous revoir.
Je vous ai fort regretté quand, au milieu de la guerre, je suis allé rendre visite au chat.
Je suis navré d'avoir été absent.
Je dois vous remercier de m'avoir laissé passer sur vos terres.
Mes terres ne sont qu'une province de la Perse.
Prince, sortant, ce n'est pas une chère trop bien. Chère trop beau, tamam, mais chère, bienvenue au Bahamas.
Je comprends. Toujours pardonner.
On entend le bal du comte d'Orgel de Marc Allégret, adaptation du livre de Raymond Radziguet. Et surtout, on entend votre oncle, Mina Cavani, Ali Rafi, qui était metteur en scène, a dirigé le théâtre de la ville de Téhéran à l'époque du Shah. Et il est venu en France comme footballeur avant d'être acteur.
Absolument, absolument. Et en fait, il s'est cassé le genou. Il avait 17 ans. Et il n'avait pas envie de rentrer en Iran. Et en fait, pour pouvoir rester, il fuit. Et en fait, il se retrouve comme boulot dans un théâtre. Je sais pas, comme nettoyer. Je sais vraiment un truc, un boulot. Et c'est comme ça qu'il entre dans l'univers de théâtre. En fait, il se rend compte, c'est ça, sa vraie passion. Sa route croise George Wilson.
Agnès Varda,
qui est venue même en Iran, qui a même rencontré mes parents, que je ne les ai jamais rencontrés. c'était fou. Et ils ont fait deux tournages là-bas, en Iran, à Ispahan. Ouais, c'est fou quand même.
En Iran, quand vous rentrez de l'école avec votre uniforme de la République islamique, vous filez voir votre oncle au travail, dans la maison, il est au premier étage de la maison, c'est
absolument,
ça?
Absolument.
Il vous parle de Chéreau, Mouchkine, Bergman, Tchékov, vous lisez des classiques dans sa bibliothèque. Parce que lui vous disait, d'accord, vous voulez devenir actrice, bah, il va falloir lire tout Shakespeare. Tout Tchékov.
Oui, ah oui, il était très très dur et des fois je fuyais parce que je devais lui rendre des devoirs. Mais par exemple, je sais pas, on regardait des films de Hitchcock ensemble et il me demandait que je lui écrive des choses, qu'est-ce que j'ai compris de ce film. En fait, j'avais 12 ans.
Mais ça permet d'articuler sa pensée très tôt.
Je pense que je comprendrais, mais je pense que quand même ça a fait ses effets où Bergman... Et franchement, je sais pas qu'est-ce que je comprenais.
Non, Bergman à 12 ans, c'est méchant.
À 12 ans, c'est compliqué. Oui, oui, c'est vraiment... En fait, je me rends compte que la grosse partie de ma culture cinématographique et théâtrale et littérature, je les ai vraiment grâce à mon oncle dans ces années-là, malgré mon très jeune âge. Et, mais quand même, ça a fait un effet incroyable. Il me disait de lire tel livre. Par exemple, il me disait, si tu commences Ibsen, il faut lire tous les Ibsen. Donc je lui dis, c'est comme ça.
Mais alors, par exemple, pourquoi est-ce que pour lui, on ne pouvait pas lire Hafez si on ne connaissait pas l'histoire des deux guerres mondiales?
Il disait que tu ne peux pas comprendre la poésie contemporaine sans comprendre la poésie classique. Il faut commencer par des classiques. Il pense comme ça. Il a toujours pensé comme ça. Et je pense qu'il a raison, mais c'est vrai que moi j'étais très très attirée par tout ce qui était contemporain parce que je le comprenais mieux en fait, parce que la poésie classique iranienne est tellement difficile à comprendre, mais même aujourd'hui je comprends pas. Il faut que quelqu'un explique à côté de moi, c'est très très complexe. Mais je pense que je comprends son point de vue. Ouais.
Et le français, vous avez commencé à l'apprendre en Iran, je crois que vous regardiez des films de Jean-Luc Godard.
Oui, oui, parce que ça faisait partie des films qui m'ont montré. Et je suis tombée follement amoureuse de cette culture, de cette langue. Et ma mère, elle parlait alors moins bien que mon oncle, mais elle parlait quand même. Et ma sœur, elle parlait très bien parce qu'elle a fait son école ici, ma grande sœur. Mais du coup, je voulais avec toutes mes cellules d'apprendre la langue française. Et ma mère, elle a commencé à m'apprendre un peu. Et puis avec mon oncle qui parlait très bien. Et puis tous ses amis français qui venaient à la maison. Et je les voyais parler en français. Pour moi, c'était waouh, c'était tout un univers de là-bas, de l'étrangère, de ailleurs qui me passionnait. Que je les regardais, je les écoutais. Je comprenais pas du tout ce qu'ils disaient. Et tout ça a fait que... Vraiment, ma mère, elle a fini par me mettre chez une grande dame qui apprenait la langue française chez elle, en cachette, aux filles et aux garçons mix. Et elle nous montrait des films, des grands films de cinéma français. Et c'est comme ça que moi, j'ai véritablement commencé à apprendre la langue française. Ouais.
Une chambre, pas d'un rôle. Avec des cuivres et des bouquets rustiques. La belle-mère de l'autre tient dans ses bras un enfant qu'il berce et la femme de Léonard tricote à l'autre bout de la chambre. Do, do, l'enfant do. La cavale noire n'a pas voulu boire et l'eau coule noire entre les roseaux. Au pont se repose, s'y met à chanter. Qui sait quelle chose elle peut compter quand l'eau se promène en traînant sa traîne.
On entend Les Noces de sang de Federico Garcia Lorca, lu par Marcel Lupovici sur la RTF en 1954. Dans le prologue du texte I'm Deranged de Mina Cavani, on apprend que vous avez assisté aux 90 représentations de la mise en scène de votre oncle de ce texte, mais derrière le rideau.
C'est vrai.
Et vous connaissiez le texte par cœur.
Par cœur, c'est vrai. C'est vrai, vraiment. J'ai vu toutes les 90 représentations chaque soir. J'allais avec mon oncle et je regardais ces acteurs et j'étais amoureuse follement d'elle et je connaissais par cœur leur texte en fait. Et c'est là où je suis tombée follement amoureuse du théâtre, c'est là où j'ai décidé de devenir comédienne.
En parallèle de cet ailleurs que vous découvrez à l'école iranienne, vous allez en uniforme avec les gardiens de la révolution qui vous guettent à la sortie pour surveiller vos tenues. Et par réaction, à ce moment-là, vous êtes coupé les cheveux très courts.
Oui, c'est vrai. J'avais très très longtemps des cheveux très courts à la garçon. Et je faisais que des grandes conneries à l'école. Mes parents, ils étaient tout le temps convoqués. À l'école, j'étais le chef, j'étais le leader des mauvais élèves en fait. Et même quand je suis allée à l'université, enfin l'université, l'école de théâtre, j'ai tellement été absente qu'on m'a appelée pour me dire en fait que la nièce d'Ali Raffi ne peut pas être comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout simplement à l'école, on nous apprenait pas du théâtre.
Enfin, on parlait de Khomeini.
Oh oui, on avait des cours testament de Imam Khomeini, ou alors s'il y avait des cours de théâtre, c'était de la merde. C'était des choses horribles. C'était très mauvais. Et moi, je jouais parallèlement, même si j'avais commencé à jouer. Donc, en fait, mon école était sur les planches, à côté des acteurs. Et j'allais pas à l'école. Et on m'a dit, juste parce que tu es la nièce d'Ali Raffi, on te pardonne et tu pourras refaire cette année. Et j'ai pas terminé, en fait. Je suis partie.
Parce qu'en fait, il vous a proposé de jouer votre oncle dans Il ne neige pas en Égypte. Lui s'est fait arrêter.
Pas dans cette pièce-là, dans son précédent. Il s'est fait arrêter, il a été condamné à 2 ans de prison.
Qu'il a finalement fait à résidence, en étant assigné à résidence.
Oui, c'est ça, absolument. Absolument. Il a fait 12 représentations. Et puis, je me souviens très bien qu'un jour, il y a une équipe, des espèces de flics, gardiens de la Révolution, qui sont rentrés dans cet opéra de Téhéran construit par Farah Diba de l'époque du Shah, sublime à l'époque du Shah, mais que c'est devenu après Tolor Vahdat. Mais à l'époque, il avait un autre nom, Opéra de Roudaki. Donc ils sont rentrés, ils l'ont arrêté, et ils ont dit que le spectacle ne peut plus continuer et tout. Et après, il a arrêté pendant quelques années, et il a fait ce spectacle-là, dans lequel moi j'ai joué la première fois de ma vie, pour lui, et la première fois de ma vie.
Comment est-ce que vous avez rencontré Tinouche Nazmjou, qui tient aujourd'hui à Paris une librairie de livres persans, mais en Iran?
Vous savez tout. Bah, Tinouche, c'est quelqu'un qui est important dans ma vie, qui a été important dans ma vie, parce que c'est lui qui m'a dit « Tu es encore très jeune, ne continue pas ta carrière ici, tu parles français. » Va au conservatoire, il faut que tu rentres au conservatoire, c'est là-bas. Et Tinouche, je pense que lui-même, il ne sait pas à quel point il a changé mon destin. Parce que peut-être s'il n'était pas là, s'il ne me parlait pas autant du conservatoire, j'aurais jamais quitté l'Iran. Parce que c'est vrai que je travaillais bien, j'étais déjà dans ce qu'on appelle la mafia de théâtre et cinéma iranien. Puis c'est confortable quand on commence à travailler bien. Mais Tinouche a tellement parlé de tout de moi, de ce théâtre français, des acteurs français, pareil que mon oncle, que j'ai décidé de partir.
C'est facile d'être bonne et souriante et douce. Sa douceur, quand on est belle et riche. Mais être bonne quand on est une bonne. On se contente de parader pendant qu'on fait le ménage ou la vaisselle, on brandit un plumeau comme un éventail, on a des gestes élégants avec la serpillière. Ou bien comme toi, on va s'offrir la nuit le luxe d'un défilé historique dans les appartements de madame.
Solange, que cherches-tu? Tu crois que ce sont tes accusations qui vont nous calmer? Sur ton compte, je pourrais en raconter de plus belles.
Toi.
Parfaitement.
Toi.
Moi. Si je voulais.
1954, Tatiana Mouchkine et Tania Balakhova dans Les Bonnes de Jean Genet au théâtre de la Huchette, enregistré pour la RTF. On entend les bruits du sillon de l'enregistrement. Mina Kavani, c'est une scène des Bonnes de Genet que vous avez préparée pour le concours du conservatoire, avec aussi une scène de L'Avare de Molière et Les Amants d'un jour de Piaf en chanson.
Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi.
D'accord.
Les Bonnes... Parce que... Non, je commence comme ça plutôt. En fait, j'étais obligée de choisir des pièces que je connaissais bien au niveau de l'histoire de la pièce et au niveau de la langue française, en fait. C'est-à-dire que j'étais limitée, j'étais pas... Et en fait, L'Avare, tout le monde connaît L'Avare de Molière en Iran. Et donc, voilà, je connaissais par cœur l'histoire de L'Avare. Donc, je pouvais mieux... défendre le personnage. Et Les Bonnes, parce que mon oncle, il a monté Les Bonnes. Donc, le résultat, c'est que je connaissais aussi par cœur et que j'étais amoureuse de ces deux personnages, de ces deux bonnes. J'étais vraiment amoureuse. Et Piaf, parce que je chantais beaucoup Piaf quand j'étais à Téhéran avec un ami pianiste. Je connaissais par cœur toutes ces chansons. Ça me sidère qu'aujourd'hui je me rends compte que je connaissais mieux les paroles françaises des chansons françaises à Téhéran que quand je suis venue en France. Et c'est devenu à l'inverse. Toutes les choses que je connaissais pas de la culture iranienne, je commence à le connaître mieux maintenant ici en France. Donc, ouais, j'ai choisi la fille de joie est belle.
Au fond de la rue là-bas.
Au fond de la rue là-bas, ouais, je chantais ça, ouais.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Alors tu ouvres une phrase comme ça, une phrase de Racine sublime. Ça c'est dans Andromaque. D'un amour qui s'éteint, c'est le dernier éclat. Ah, t'es acteur, tu dois porter ça pendant 35 ans. D'un amour qui s'éteint, c'est le dernier éclat. Amour, déjà tu vas travailler, éteindre, dernier éclat. Tu peux travailler toute ta vie avec ça. Mais nous, on ouvre les phrases, si tu veux. On ouvre. On regarde ce qu'il y a dans cette phrase. Et du coup, on peut mettre Artaud. Tu vois? Parce que dans Artaud, il a quelque chose à dire sur l'amour.
Mina Cavani, vous avez suivi les enseignements au conservatoire de Jean-Damien Barbin qu'on entend au Théâtre de Vidi en 2019. C'est lui qui signe la postface de votre texte « I'm deranged ». Et vous dites qu'il vous a sculpté,
absolument,
mais aussi cassé.
Ouais.
Comme votre oncle.
Oui.
Mais dans le bon sens du terme.
Dans le très bon sens du terme. Et ça a été très important. Des rencontres qui m'ont bouleversée, qui m'ont sculptée encore une fois. Et le destin, j'ai envie de parler de destin. Moi, c'était mon destin d'être la nièce de cet immense homme qui est mon oncle, Ali Rafi. Ça, je ne l'ai pas choisi, c'était le destin. Et après, le destin a voulu que quand je viens en France, je sois élève de Jean-Damien Barbin, qui est quand même un artiste. C'est l'un des artistes le plus étonnant, le plus unique que j'ai jamais connu de ma vie. Et vrai, brut, tellement hors système, tellement jusqu'à la... Je sais pas le décrire. C'est difficile, Jean-Damien, de décrire, mais ça a été quand même... C'est un immense artiste qui m'a profondément bouleversée et il a été très, très important dans ma vie artistique.
Je dis souvent à mes comédiens... Imaginons un chien qui va vers son lac qu'il adore. Il aime ce lac, il sent souvent, il se promène souvent au bord du lac. Et comment ce chien peut penser? De quelle manière il peut exprimer sa volonté vers le lac puisqu'il n'a pas de mots? On peut se dire que ça passe par des images. Il a une vision du lac, plutôt d'une onde, d'une profondeur. Mais en même temps, c'est l'annonce d'un plaisir qui s'y trouve. L'annonce d'un mystère qu'il retrouve là-bas. On peut se dire qu'un chien a aussi son propre mystère. Il peut avoir sa propre métaphysique, bien entendu, exprimée à travers ce langage dessiné, imagé. Je dirais que ce sont des chemins élémentaires auxquels nous pouvons descendre pour échapper ainsi à cette tricherie, à ce mensonge qui est apporté à l'homme par la langue.
C'est Christiane Loupa qu'on entend dans l'heure bleue de Laure Adler sur la chaîne en 2018. On vient de passer en revue plusieurs des rencontres qui ont été marquantes pour vous, Mina Cavani. Lui a beaucoup compté et vous dites qu'il vous a poussé à faire des spectacles et qu'il vous a accompagné dans vos gouffres.
Ah oui, là tout à l'heure je vous parlais des rencontres. Christiane Loupa, ça fait partie aussi de l'une des rencontre la plus magique de ma vie, artistique toujours. Je suis tombée amoureuse de Christiane Loupa, mais amoureuse dans pas femme-homme, amoureuse de l'artiste, de son âme, de son théâtre, de tout ce qu'il dit. C'était très très fort notre rencontre. C'est difficile pour moi de dire réciproque parce que ce serait prétentieuse, mais ça a été très réciproque. Ça a été, je pense que on n'a pas eu besoin de se parler. On s'est très rapidement compris. Je pense que Christiane Loupa, c'est le seul metteur en scène que je suis prête à quitter tout, quitter la France pour aller 6 mois en Pologne pour travailler avec lui. Oh, wow. Tellement, tellement je l'aime.
Bah, je viens avec vous.
کیه؟
ببخشید منم موبایلم بگیرم.
بفرمایید.
راستی مرسی بابت عصرو جونم رو نجات دادی. اگه قول بدم به چیز دست نزنم میشه من یه ذره دیگه جونم بمونم. اگه خوب شده میتونی اگه خوب شده
پس هرچی بخوام میتونم بگم جز اون چیزایی که نباید گفت. داره
حال اینجا ترنه دیگه با مراقب خطر میزاد باشیم.
Mina Cavani, vous avez tenu le rôle principal de Red Rose de Sepideh Farsi, une histoire d'amour qui a lieu pendant les émeutes de 2009 à Téhéran entre un ancien révolutionnaire et une jeune militante. Il y a une scène d'amour dénudée et vous saviez en acceptant de faire ce film que ça allait signer votre exil. Et donc, juste avant qu'il sorte, vous êtes retournée en Iran en sachant que ce serait la dernière fois et en filmant votre famille.
Oui, et mes amis et Téhéran et tout. Oui, c'est vrai. En fait, je savais. Je savais qu'en faisant ce film, je ne peux plus retourner en Iran. Et je savais qu'il me fallait un dernier voyage en Iran. Donc, j'ai fait ce voyage-là. Mais je pense que ce que je ne savais pas forcément, c'était vraiment qu'est-ce que ça allait me ramener l'exil, en fait. C'est ça que je pouvais pas vraiment complètement réalisé. Mais je pense que, ou combien j'en suis heureuse aujourd'hui, mais je pense que l'envie, vocation en moi était tellement fort que même si je savais en moi que j'allais prendre cette décision à ce point énorme, je savais que mon chemin est là. Étrangement, je le savais.
C'est quelque chose qui existe en Iran, notamment après le mouvement Femmes et Liberté. Beaucoup de femmes sont dans une situation d'incertitude. La veille, elles étaient dans la rue, sans voile. Après, la police est venue, les a arrêtées. Mais le lendemain, elles reviennent, en fait, dans les rues. Donc l'incertitude, c'est comme ça, mais elle doute pas. C'est le prix à payer.
On entend Jafar Panahi quand il était venu dans l'émission en octobre 2025. Mina Cavani, vous avez tourné dans Aucun ours et vous êtes allée à la Mostra. Vous l'avez représenté sur scène parce qu'il était emprisonné par les autorités iraniennes. Il a dû tourner même le film presque clandestinement. Que gardez-vous de cette expérience ?
C'était l'une des expériences les plus encore magiques de ma vie. Il faut dire que ma vie a été remplie de plein de hasards et accidents et des bons accidents. J'ai eu cette chance-là de que ma route a croisé des vraiment grands artistes, des grands artistes. Et c'est comme si j'étais destinée à ça. Ça a commencé par mon oncle, après l'agent Damien, après Christian Lupa, Jafar Panahi. Ils sont des grands hommes que je pense que oui, je suis très 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 fière d'avoir travaillé avec Jafar Panahi. J'oublierai jamais mon tournage à Istanbul. J'oublierai jamais la manière qui m'a dirigée à travers Zoom ou WhatsApp. Quand j'étais à Istanbul, la manière qu'il me dirigeait, il était tellement là, il était tellement présent, il était tellement intense dans son amour pour son art et pour le cinéma que rien d'autre n'existait en fait. Le fait que moi, je pouvais pas rentrer en Iran à ce moment-là, lui, il pouvait pas sortir. Il était même pas sur le plateau de son tournage. Et tout ça n'existait pas à part le cinéma. Ça, je trouve ça immense. Et moi, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'avoir croisé la route de ces grands hommes dans ma vie.
Thank you. l'un de vos choix musicaux, Mina Cavani, c'est Where Are You de
Cal Hall. Ouais, je suis folle vraiment de la musique de Cal Hall. Je l'ai beaucoup écouté et notamment ce morceau-là, je l'ai beaucoup écouté. Je l'écoutais en boucle, particulièrement quand je travaillais le texte sur Foulour. Je l'ai beaucoup écouté. Ça a été mon inspiration profonde pour ce spectacle. Ce morceau-là.
Ça, on va en parler. C'est un montage de texte absolument magnifique. Mais découvrons d'abord votre deuxième choix musical. Alors, je précise qu'il y a aussi Barbara, qu'on n'aura pas le temps de passer, mais théâtre. Mais voici un autre.
I feel complete.
Mina Cavani.
Moi, j'ai découvert cette musique dans le film de Paolo Sorrentino, Youth, que c'est devenu l'un de mes films préférés au monde. Et je ne sais pas pourquoi ce film m'a à ce point bouleversé. Et cette chanson, c'est la raison pour laquelle je suis amoureuse de cette chanson, parce qu'il y a toute la tempête et le chaos de la vie et de tous les hauts et le bas de la vie dedans, mais finalement il y a la force qui gagne et c'est la force qui gagne en fait. C'est pour ça que ça m'émeut à ce point, cette chanson.
Ça ressemble beaucoup à votre parcours. On vous a demandé des découvertes pour les auditeurs et vous avez choisi deux films, Une femme sous influence de John Cassavetes et Close-up de Abbas Kiarostami. Alors d'abord, le Cassavetes, parce que vous, à nouveau, tout à l'heure, vous avez poussé un coup de gueule avec l'orientalisme et les clichés sur l'Iran. Et vous, à chaque fois, on vous proposait des rôles liés à l'Iran, sauf dans la série dans laquelle vous avez joué Escort Boys.
Oui.
Ça vous a fait du bien, d'ailleurs.
Ah bah, je pense que je suis obligée des fois de faire des choses un peu étranges et un peu décalées pour que... des fois, il faut bouger l'imagination des gens.
Parce que vous rêviez en Isabelle Adjani.
Oui, enfin, moi, j'ai découvert Adjani dans le film Camille Claudel et Adèle H de François Truffaut, ce sont deux films qui m'ont, au niveau du jeu et de l'intensité, et Isabelle Adjani me bouleverse, mais vraiment me bouleverse. Et d'ailleurs, je l'invite au spectacle ici. J'aimerais tellement qu'elle vienne découvrir mon spectacle. Gina Rollins, pareil. C'est parce que en fait, je pense que je suis toujours à la recherche de un mélange de force et de fragilité. C'est ça qui m'intéresse énormément chez les acteurs. Pas que chez les acteurs, dans le cinéma ou dans le théâtre. C'est ça que je cherche. C'est comme cette chanson de Youth, de Paolo Sorrentino. Je cherche toujours un mélange de ces deux éléments ensemble. C'est ça qui me passionne le plus.
D'ailleurs, pour ceux qui voudraient le titre de la chanson, c'est Simple Song de Sumi Jo. Il y a un moment très émouvant dans votre spectacle « I'm Deranged » de Mina Cavani où vous faites allusion à tous ceux qui vont quitter l'Iran et qui auront un futur artistique dans d'autres pays. Et je voulais rendre hommage aux Yellow Dogs, un groupe que j'ai découvert grâce à vous. Mm-hmm. Le morceau, c'est « No One Knows About Persian Cats ». Et on a découvert avec l'équipe en préparant l'émission qu'ils avaient été assassinés
Absolument.
À Brooklyn par un autre
Absolument.
Iranien.
D'ailleurs... Et j'aimerais bien de nouveau parler de cet orientalisme pour ceux qui pensent que nous, la jeunesse iranienne, il faudrait qu'on soit oriental et pas occidental. Ça serait bien qu'ils sachent que ce morceau a été joué à Téhéran, au cœur de Téhéran, dans le underground de Téhéran. Voilà un morceau, voilà la jeunesse iranienne. Et ça, c'est un événement que dans ma vie qui m'a beaucoup bouleversé, moi et mon frère jumeau. Parce que lui, il habite à New York. C'est parce que eux, ils ont joué dans le film de Barman Robody, Les Chats Persans, et ils ont sorti de l'Iran. Et en fait, voilà, ils cherchaient la gloire, ce que je dis dans MD Range, les grands rêves de conquérir toutes les grandes scènes de la musique. Alors, il y en a un qui n'a pas pu supporter l'exil, qui n'a pas pu supporter beaucoup de choses. Il est complètement devenu fou. Et il a tué les autres, il a tué lui-même aussi. Donc ça, c'est un événement qui s'est passé en 2013 à Brooklyn et qui m'a vraiment, vraiment profondément bouleversée. Et c'est à ce moment-là aussi particulièrement de ma vie que j'ai décidé de parler de la jeunesse iranienne, de ce qui nous peut nous arriver même quand on n'est plus en Iran.
Dans MD Range, vous écrivez « Je hais mon désespoir, je ne compte pas jouir de la vie non plus, je veux seulement en faire quelque chose de grand ». Et ce qui revient depuis le début de notre entretien, Mina Cavani, c'est une intensité, un amour dévorant pour l'art. Et en ce moment, vous mettez en scène « Ma maison est noire », qui est un montage de différents textes de la poétesse iranienne Farrukh Farrokhzad au Théâtre des Bouffes du Nord. Le titre vient de son court-métrage qui s'appelait « La maison est noire », c'était un film sur les lépreux. Et elle est morte dans un accident de voiture à 32 ans. Est-ce que vous voulez nous parler d'elle? Parce que les textes que vous avez montés sont absolument magnifiques. Ça en écho avec votre propre vie et c'est une grande réflexion aussi sur l'art et sur le fait de tout sacrifier pour l'art.
Oui, en fait, Farrukh Farrokhzad, j'ai envie de commencer comme ça, pardon, j'ai l'impression que je suis complètement obsédée là-dessus aujourd'hui. Mais alors autant que moi je vous parle d'une haine pour orientalisme cliché, attention, pas pour orientalisme, mais elle a été 4 fois plus ça. Ça veut dire que Farrukh Farrokhzad, c'était une âme internationale, c'était une femme qui détestait des cases dont on imposait la maître. Elle voulait être libre, elle voulait juste être une artiste qui appartient au monde. Elle était profondément comme ça. Et je pense que le fait qu'elle a été à ce point sauvage dans sa manière d'être, à ce point libre dans sa manière d'être, à ce point elle ne cherchait pas à être aimée en fait, faisait que elle prenait dans la gueule aussi du coup.
Elle était magnifique et brillante, profonde, intelligente.
Absolument. Mais soit on lui disait femme dépravée, soit voilà traînée, soit trop occidentalisée, soit trop comme ci, trop comme ça, mais moi, ce qui me passionne chez cette femme, c'est que, en fait, globalement, les artistes qui m'ont passionnée, je me rends compte, sont des artistes qui cherchent à être le plus proche d'abord d'eux-mêmes, avant d'être proche à qui que ce soit. Et ça, c'est une force énorme, qui est très très fragile aussi, parce que tu ne cherches pas à être aimée, en fait.
C'est ce qui est le plus dur.
C'est ce qui est le plus dur. Et Farrukh Farrokhzad, elle était vraiment dans tous les sens du terme, elle était comme ça. C'est pour ça qu'elle n'a pas été très bien comprise. Elle a été comprise un peu plus tard. Moi, j'avais absolument pas envie de faire une biographie d'elle, mais j'avais envie de raconter mon histoire, pas que mon histoire à moi, l'histoire que moi j'avais envie de raconter à travers ses textes à elle, et aussi raconter tel que je voyais, j'aperçois le monde aujourd'hui et les gens aujourd'hui. Et il n'y avait pas mieux que texte Farrukh Farrokhzad pour moi.
Oui, parce que parfois je me demandais si c'était des textes contemporains. Ils sonnent très contemporains.
On est d'accord.
Est-ce que vous voulez lire un de ses poèmes pour clore l'émission?
En persan ou en français?
Comme vous voulez. Peut-être un bout en farsi et un bout en français?
Je commence en persan alors. آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به فتح نیندیشید و دیگر هیچ کس به هیچ چیز نیندیشید. خون بوی بنگ و افیون می داد. زنهای باردار نوزادهای بی سر زایدند و گاهوارها از شرم به گورها پناه آوردند. چه روزگار تلخ و سیاهی. دیگر صدای هیهی چوپانی را در بحت دشت ها نشنیدند. در دیدگان آینه ها گویی حرکات و رنگ ها و تصاویر وارون منعکس می گشت. مرداب های الکل با آن بخارهای گس مسموم انبوه بی تحرک روشن فکران را به ژرف نای خیش کشیدند و موش های موزی اوراق زرنگار کتب را در گنجه های کهنه جویدند. خورشید مرده بود، خورشید مرده بود و مردم، گروه ساقط مردم، دل مرده و تکیده و مبهود در زیر بار شوم جسدهایشان از قربتی به قربت دیگر می رفتند و میل دردناک جنایت در دستهایشان متورم می شد.
Est-ce que vous voulez nous lire une strophe en français? Parce qu'on n'aura pas le temps de faire tout en français, mais c'est tellement beau.
Alors, le soleil se refroidit, et la bénédiction quitta les terres, et l'herbe sécha dans les plaines, et les poissons périrent dans les mers, et la terre ne replie plus ses morts. La nuit, dans toutes les fenêtres pâlies, telle une impression douteuse, vibrait constamment en tumulte. Les chemins abandonnèrent leur suite dans le noir. Personne ne songea plus à l'amour. Personne ne songea plus à la conquête. Personne ne songea plus à rien. Dans les grottes de la solitude est née la vanité. Le sang puait l'opium. Les femmes enceintes accouchèrent de bébés sans tête. Et les berceaux honteux se réfugièrent dans les tombes. Quelle époque amère et noire.
Merci beaucoup, Mina Cavani. Ma maison est noire et visible au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 1er mars. Et le spectacle sera joué à Maubeuge le 5 mars dans le cadre du cabinet de curiosité. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Pauline Laverdure.